Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mauni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Crise sécuritaire, quel rôle pour les médias maliens? C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Le Mali traverse une crise sécuritaire depuis des années. Cependant, la guerre ne se mène pas sur les champs de bataille, mais elle se déroule aussi sur le terrain de la communication entre propagande, modification des récits, désinformation. Comment préserver l'unité et la cohésion sociale au Mali? Quel rôle les médias maliens jouent dans le traitement de l'information en cette période de crise? À ces questions et à bien d'autres vont répondre nos invités au nombre de trois. Modibo Fofana, journaliste président de l'Appel Mali, association professionnelle de la presse en ligne au Mali. Awa Chouaïdou Traoré, rédactrice en chef du quotidien privé Nouvel Horizon. Et Gamer Diko, conseiller technique au ministère de la Communication, de l'économie numérique et la modernisation de l'administration. Je suis Moussa Malé Sissoko à la présentation.
Le Grand Dialogue.
Chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Diko, quelle analyse faites-vous du traitement par les médias maliens de cette crise?
Bonsoir à tout le monde, bonsoir à vos auditeurs. Merci pour cette question. Bon, je crois qu'il y a une certaine responsabilité quant au traitement de l'information par les médias maliens. On ne peut pas le nier. Les médias maliens je constate qu'ils sont très responsables dans le traitement de l'information et ils sont attentifs, proactifs et même réactifs parce qu'ils ne se lancent pas sur les premiers mots et aussi la première information qui est divulguée par les médias mainstream. Ils prennent souvent le temps d'écouter et les informations officielles, de recevoir les communiqués officiels avant de se lancer dans les traitements.
Les journalistes font preuve de professionnalisme.
Les journalistes maliens font preuve de responsabilité. Oui. C'est ce que je veux dire.
D'accord. Modibo Fofana, vous êtes le président de l'Appel Mali. À votre niveau, comment expliquez-vous les enjeux de la communication pendant cette période?
Ok, merci d'abord. Je remercie nos auditeurs qui nous suivent par milliers. Et remercie également Sidio Tamani, une fois de plus, de s'intéresser à ces débats, à ces questions d'actualité. Et également, il y a assez de danger en ce moment parce que dans un pays où il y a ce qu'on appelle une crise, surtout nous sommes confrontés à une crise multidimensionnelle depuis bientôt 6 à 7 ans, dans un tel pays, il y a assez de matière pour les médias et surtout les informations qui sont liées à la sécurité. Déjà, avec telle situation, nous sommes envahis par des informations qui viennent partout, des informations qui viennent de l'extérieur ainsi que de l'intérieur. Mais malheureusement, souvent, on est envahi par la désinformation, par les rumeurs qui sèment un peu souvent la panique et provoquent aussi la peur dans notre pays. L'enjeu est important, Croy l'a si bien dit, par rapport à cette situation, nous, les journalistes, c'est le moment de se montrer plus responsable. Et puis plus professionnel. Certes, de la crise de 2012, nous avons constaté quand même quelques faiblesses, quelques lacunes de certains de nos médias. Mais depuis 2012, à l'ère actuelle, moi je pense que nous journalistes, nous sommes en mesure de mesurer l'enjeu de la situation et d'être encore plus professionnel et puis plus prudent. Et je vais ajouter même plus pédagogue dans le traitement de l'information.
D'accord. Awa Chouaïdou Traoré, vous êtes rédactrice en chef du quotidien Nouvel Horizon. Est-ce que vous partagez ce point de vue, responsabilité, professionnalisme? L'enjeu est quand même énorme.
Bonjour Monsieur Mali, bonjour tout le monde. Donc oui, l'enjeu est très énorme. L'enjeu est énorme et la situation est très délicate. Parce qu'au-delà de la guerre que nous vivons dans le pays, il faut aussi avouer que le Mali est fait face à une guerre communicationnelle. Pas le Mali, les Maliens. Parce que très souvent, il y a des médias internationaux qui rapportent des faits que nous ne vivons pas réellement sur le terrain.
On va en parler.
Oui. Et il faut dire que les médias maliens, en tout cas la presse écrite malienne, elle fait très attention. Elle fait très attention pour ne pas verser dans l'excès, pour ne pas verser dans la désinformation, pour ne pas peut-être verser dans la propagande pour certains. Donc il y a beaucoup de vérifications. On fait très attention à ne pas automatiquement annoncer une information sans bien la vérifier et sans être sûr de tous les tenants et les aboutissants. Donc oui, je dirais que les médias maliens font très attention. On est consciencieux. Certains diraient qu'on est patriotique. À des moments, je crois qu'il faut l'être. À des moments, je pense qu'il faut l'être. D'accord. C'est très important, surtout quand il en vient à la cohésion nationale. Et c'est très important, c'est nécessaire. C'est plus que nécessaire.
Donc la rigueur est de mise. Monsieur Diko, vous êtes conseiller au ministère de la Communication. Est-ce à dire aujourd'hui la guerre à l'information, la guerre de l'information est un prolongement de la guerre classique?
Vous savez, l'information a été toujours une arme. Et l'information, tout comme la communication, ont été toujours des armes. Comme les armes avec lesquelles on massacre dans certains villages, on massacre dans certaines communautés. C'est des armes qu'on utilise aujourd'hui. Et c'est là que la différence entre information et propagande devient très mince. Très, très mince. Ceux qui nous bombardent aujourd'hui avec beaucoup d'informations, en réalité, nous intoxiquent. Et une intoxication...
Qui ?
Les grands médias. Les médias hors de notre pays. Parce que je disais tantôt que nos médias sont responsables. Ils se font même de l'autocensure. Ce qui est patriotique, ce qu'il faut saluer. Par contre, il y a des médias à l'extérieur de nos pays, notamment des pays de l'AES, qui ne sont là que pour ne voir que les côtés négatifs, les côtés mauvais, les côtés déstabilisants, les côtés condescendants, qu'on nous verse tous les jours sur nous. Et dire que maintenant, ces médias, vous les connaissez, je les connais. Je n'ai pas honte de citer des médias, parce que ce que je veux dire, je peux en répondre. Il y a des médias, quand vous les écoutez, vous allez vous dire que c'est la catastrophe, quoi. Les Mali n'existent plus, les pays de l'AS, c'est la cata. Mais en réalité, quand vous vous trouvez ici, chez nous, vous êtes en paix. Moi, je vais sortir tout à l'heure payer mes mangues devant la station, payer mes oranges quelque part. Et la nuit, je ne vois pas... C'est vrai qu'on est en guerre. On est en guerre, tant sur le plan militaire que sur le plan communicationnel. Mais ce n'est pas la cata telle qu'on veut le faire savoir.
D'accord. Alors, Modibo Fofana, est-ce que vous partagez ce point de vue? La guerre de l'information, une sorte de prolongement de la guerre avec des armes?
Exactement. Je pense que nous sommes également dans une guerre informationnelle. Je suis d'accord avec Lenny. Dans tous les pays aujourd'hui, surtout toutes les grandes puissances, il faut reconnaître que les médias, c'est le prolongement de leur armée. Et ils ont compris, d'une part, je peux dire comme ça, certaines grandes puissances, qu'il faut renforcer les médias. Il faut rendre les médias très forts, afin de venir en appui à leur armée. Et aujourd'hui, le Mali en fait face à des grands médias qui sont plus redoutables même que certaines armées aujourd'hui et qui nous posent tellement de problèmes en diffusant des fausses informations. Bon, je peux dire, en nous désinformant, je peux dire comme ça. Et puis, avec des traitements émotionnels aussi que ces médias font, à tel point que nous, les populations, nous, les Maliens, souvent, nous sommes les victimes collatérales parce que nous consommons ces informations. Et ensuite, leur réactivité est plus... Ils sont plus réactifs que nous, alors que les doyens viennent de dire, nous faisons l'autocensure, non seulement... pour au moins préserver l'unité nationale et la cohésion nationale. Mais ces médias foulent l'éthique, les principes fondamentaux du journalisme. Mais l'essentiel pour eux, seulement avoir l'audience et puis causer de tort à ces pays de l'AS.
D'accord. Justement, Awa, qui sont les perdants, véritables perdants de cette guerre de l'information, selon vous?
Est-ce qu'il... Donc, vous savez, dans la guerre d'information, je pense qu'il n'y a pas de perdant. Il n'y a pas de perdant. Parce que quand on dit qu'il y a un perdant, peut-être qu'il y a des personnes qui sont touchées négativement. Là, vous pouvez dire que ce sont des perdants. Mais concrètement, je ne peux pas dire qu'il y a des perdants. Mais il y a surtout des cibles. Il y a des cibles qu'on veut impacter positivement et il y a des cibles qu'on veut impacter négativement. Alors quand on diffuse une information sur l'armée malienne, par exemple, qui est négative, c'est évident que c'est l'armée qui est ciblée négativement. Maintenant, la population malienne, elle est ciblée, mais psychologiquement.
Ouais, c'est aussi un impact.
C'est un impact.
Absolument.
Voilà, mais on ne peut pas dire que nous sommes des perdants. C'est à nous maintenant qui sommes peut-être sur place. Souvent, c'est quand même assez compliqué, même ceux qui sont sur place. Moi, je peux avoir une information sur ce qui se passe à Gao. Tant que je n'ai pas des sources à Gao, je ne peux pas être sûre de ce qui se passe réellement à Gao. Donc, je suis obligée souvent de m'en tenir, je me mets dans la peau d'un Malien lambda, de m'en tenir à l'information que j'ai. C'est souvent très compliqué dans ce cas de figure. Et pour éviter ce genre de choses, la chose que je préconise très souvent, en tout cas pour les responsables, les autorités, c'est de communiquer à chaud. Et c'est vrai qu'il y a des informations qui sont très sensibles, mais vous voyez, les médias internationaux, ils se saisissent de l'information, souvent ils la modifient. Souvent ils ont des détails que nous, ici, nous n'avons pas. Et ça ramène à une autre question qui est...
On va en parler, la primauté de l'information.
Voilà, les sources d'information.
Absolument.
Pourquoi eux, on leur donne des informations, la primauté de certaines informations que nous, ici, nous n'avons pas.
D'accord. Monsieur Ducot, rapidement.
Voilà, rapidement pour ajouter que tant que la communication et l'information sont des armes aujourd'hui, rappelez-vous que lors de la guerre des Malouines, lors de la guerre, des deux guerres du Golfe, tous ces pays-là ont embarqué avec eux des presses. Et comment l'information passait à ces presses? C'est à travers plusieurs filtres. Plusieurs filtres sont installés pour que l'information arrive aux journalistes. Au Malouine, je me rappelle bien, je n'étais pas là, mais j'ai lu dans beaucoup de documents, que les journalistes, pratiquement, ils étaient en prison. Ils n'avaient pas le droit de sortir du bateau dans lequel ils étaient calfeutrés. Oui, au Malouine, la guerre des Malouines, c'est l'Argentine et l'Angleterre. Vous vous rappelez, peut-être que vous étiez très petit, mais nous, on a suivi un peu. Et là, effectivement, les journalistes étaient enfermés dans un bateau. Et il faut que, pour que l'information passe, il faut qu'un colonel donne son visa. Donc, voyez pour vous dire, oui. Voilà. Pour,
OK, merci monsieur Ducot. Le ministre de la Communication a d'ailleurs animé un point de presse ce lundi 11 mai à la Maison de la Presse devant les journalistes. Alhamdou Aguilian a déclaré que le Mali, les pays de l'AES subissent des agressions terroristes politiques portées par une guerre médiatique. Je vous invite à suivre sa réaction.
Dans le contexte actuel marqué par des défis sécuritaires informationnels et sociaux importants, le rôle des acteurs de la communication demeure crucial pour la stabilité du pays, la cohésion nationale et la préservation de l'unité nationale. Je salue le professionnalisme, le patriotisme et le sens élevé des responsabilités dont les médias, journalistes, communicateurs et organisations professionnelles font preuve dans cette période sensible. Face aux campagnes de désinformation, aux manipulations, il est plus que jamais nécessaire de préserver notre espace médiatique responsable, apaisé et engagé dans la défense des intérêts supérieurs de la nation. Je tiens à rassurer l'ensemble des professionnels, des médias et de la communication quant à la volonté du gouvernement de maintenir un dialogue permanent, constructif et responsable avec les organisations représentatives du secteur. Communicateurs et organisations professionnelles font preuve dans cette période sensible.
Alhamdou Aguilian, ministre de la Communication, au micro de notre reporter Khalifa Goïta. Alors, Awa, que vous inspire cette déclaration du ministre? Vous partagez son avis?
Oui, je partage son avis en partie, parce qu'effectivement, nous faisons face à une guerre informationnelle, communicationnelle, les deux, et c'est fait à escient. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'information, c'est pour informer sans altérer les faits, mais c'est aussi pour influencer l'opinion. À travers cette guerre d'information, en donnant une information négative comme quoi les autorités n'arrivent pas à gérer la situation ou une quelconque information de ce genre, et vous avez des réactions derrière, des réactions de la communauté internationale. En fait, ces médias communiquent, ils ne communiquent pas pour nous qui sommes à l'intérieur en fait, ils communiquent pour la communauté internationale. Ils veulent influencer la communauté internationale pour que, par exemple, vous avez des Nations Unies, et j'ai vu beaucoup d'organisations qui se sont proposées de faire de la médiation pour le Mali. Et vous avez d'autres organisations qui ont proposé, comme la CEDEAO par exemple, qui ont proposé de ramener d'autres forces étrangères.
Pour aider le Mali à lutter contre le terrorisme.
Donc vous voyez l'impact, exactement. Et vous voyez les dénonciations, on dénonce, oh, ils ont essayé de prendre le pouvoir. L'impact de cette communication, c'est qu'au final, l'opinion internationale va se faire une image du Mali. Et au final, ils vont dire, bon, ils n'arrivent pas à gérer, ça va déborder. Et ça va déborder sur qui? Ça va déborder sur nous.
Sur le Malien.
Non, sur eux, sur l'Occident.
Sur l'Occident.
Parce que, et c'est comme ça qu'eux vont chercher à réagir. Donc, toute cette communication est faite à escient. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le conseil que moi j'avais donné, c'était que même si ces médias qui font de la communication de masse, de longue portée, même s'ils sont interdits au Mali, parce qu'ils ont été interdits de diffusion par la
D'ailleurs, c'est la question qu'on se pose. Pourquoi ces médias dérangent autant
pas,
si les autorités l'ont déjà
ça n'empêche pas les autorités,
interdit.
Ça n'empêche pas les autorités compétentes d'aller sur ces mêmes médias et de faire des démentis. Parce qu'un média ou un journal ou une radio a une obligation de respect de la déontologie et de l'éthique.
D'accord.
Autant tu donnes la parole à un acteur, autant tu es obligé de donner la parole.
L'équilibre, oui.
Tout à fait. Donc, si l'État malien ou un responsable de l'État malien demande à aller sur ces médias, et je l'ai vu aujourd'hui, Aga Charatoumane, qui est membre du Conseil national de transition, qui est allé sur RFI, bien que RFI ne doit pas être écouté par les Maliens, mais là, on comprend que c'est des médias qui communiquent, pas pour nous, ils communiquent pour l'extérieur.
D'accord. Modibo Fofana, est-ce que ces médias aussi, bien qu'ils soient interdits de diffuser au Mali, sont accessibles sur les réseaux sociaux.
Oui,
voilà pourquoi il y a l'impact à ce niveau.
C'est ça.
Quel regard faites-vous de
C'est ça la magie de l'Internet.
Ouais.
Officiellement, la HAC a interdit ces médias, mais malheureusement, on ne peut pas interdire ces médias sur les réseaux sociaux parce que l'Internet n'a pas de frontières. La technologie est tellement bien développée, on peut se connecter à ces médias sans passer par... les satellites, etc. Raison pour laquelle les Maliens continuent toujours à suivre ces médias via les réseaux sociaux, mais via certaines aussi stratégies, certaines connexions. Et c'est pour revenir à ce que ma sœur développait tout de suite. Le ministre a parfaitement raison que nous sommes victimes d'un matraquage médiatique, c'est une réalité. Surtout quand nous observons leurs récits, ils font des récits dans le sens unique, surtout avec des consultants qui sont déconnectés de la réalité. Souvent, je suis souvent sidéré de voir certains consultants qui n'ont jamais mis pied au Mali, qui ne connaissent pas la réalité sociologique des médias au Mali et qui se permettent d'avancer des arguments sur l'État malien. En bref, en réalité, on doit aujourd'hui faire reporter. L'État doit continuer toujours à renforcer ces médias, que les doyens viennent et disent, ces médias qui sont déjà responsables et qui n'ont pas demandé aux autorités d'être responsables, parce que la responsabilité des médias, ça fait partie de l'éthique et de déontologie journalistique.
Oui.
C'est une partie très importante. Et nous sommes conscients de cela. Pour préserver la cohésion sociale, l'unité nationale, nous avons décidé de jouer à la responsabilité, mais aussi d'être encore plus professionnel. Et on doit être accompagné par les autorités dans ce sens.
Ok. Gamer Diko, quel regard faites-vous de ces médias aujourd'hui qui sont interdits, mais qui sont accessibles? Est-ce à dire aujourd'hui aussi que toute information qui provient de l'extérieur doit être suspectée ou rejetée systématiquement d'un discrédit?
Par qui? La question, c'est par qui? Nous sommes 23 millions de Maliens. Nous avons 23 millions d'opinions. Donc, dire qu'on va rejeter toute information, moi, je ne suis pas dans cette logique. Mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est peut-être c'est d'écouter cette information avec discernement. Les Maliens ont vite compris aujourd'hui que ces informations qui nous viennent de l'extérieur, en réalité, c'est des cadeaux empoisonnés. C'est des cadeaux empoisonnés qu'on nous envoie. On nous donne peut-être notre droit d'informer et ils se font-ils le droit de nous informer, qu'on a le droit d'être informé. Mais en réalité, c'est une information empoisonnée. Et cette information, moi, je ne suis pas contre sa suspension. Vraiment, je ne suis pas contre.
Ok. Et en grosso modo, beaucoup de médias maliens se demandent pourquoi ces médias dits étrangers ont la primauté sur certaines informations. Est-ce à dire qu'au niveau étatique, on ne met pas en valeur nos compétences locales, la presse?
Je pense que là il faut jeter la pierre dans notre propre jardin, nous les journalistes. Vous savez, un journaliste d'abord, c'est un carnet d'adresses. Un journaliste d'abord, c'est sa facilité d'accès
à l'information.
À certaines personnes d'abord, à certaines personnalités, à certaines institutions. Mais en réalité, chez nous, le problème, j'ai bien dit de jeter la pierre dans notre propre jardin. Notre problème, chez nous ici, c'est que nos journalistes, en réalité, c'est pas la plupart, je ne dis pas tout le monde. Il y a des bons, il y a des moins bons et puis il y a des mauvais. Nos journalistes, en réalité, certains ne sont pas vraiment des chercheurs d'information. Ils sont là, c'est pour être invités ou bien c'est pour viser se sentent mauvais, se mouchent. Mais il y a des journalistes au Mali, qui ne vivent que pour écouter là où il y a un séminaire, où il y a autre chose. Or, un journaliste, sa force, c'est d'abord son carnet d'adresse. Et dans ton carnet d'adresse, il ne faut pas mettre seulement que certaines catégories de personnes. Un journaliste, c'est vraiment un homme qui doit s'informer lui-même, s'informer, et puis avoir un bon carnet d'adresse qui puisse lui permettre de demander. Il y a une information, j'appelle ma fille qui est à côté de moi, par rapport à la presse, je l'appelle, je lui dis, bon, ma fille, qu'est-ce que vous en pensez? Mais si nous, on n'a pas un bon carnet d'adresse, on n'aura pas les informations.
Donc, vous voulez dire que les portes des institutions, des personnalités sont ouvertes et que les journalistes doivent mettre en exergue leurs compétences?
Je vais vous dire une petite anecdote. Quand on m'avait mis ici les faits divers en 2001, je ne connaissais pas la police malienne. Je ne savais pas où trouver de l'information. Mais un matin, le chef s'est levé, il a fait une décision. Voilà, je suis chargé de faire les faits divers. Et je suis parti. Je me suis d'abord dit, j'ai utilisé 2 semaines à rendre des visites de courtoisie au commissaire de Bamako, à tous les commissariats de Bamako. Et après ces 2 semaines, j'ai utilisé ma culture, c'est-à-dire quoi? Les Sinankuya. Je suis Songo, je suis Peul, je suis Tamashek, je suis Bambara, je suis... Donc, j'ai utilisé ça. Et ça m'a permis vraiment de faire de la page des faits divers de l'essor l'une des plus consultées de ces pays. Donc, ça veut dire quoi? J'ai fait un carnet d'adresses qui m'a permis à l'époque d'être appelé souvent à 1h du matin, 2h du matin par un commissaire ou bien par un gendarme pour me dire il y a telle ou telle chose qui s'est fait ici.
D'accord, rapidement. Modibo Fofana, en tant que responsable de la fêtière,
voilà, je voudrais réagir un peu à ce que le doyen vient de dire, mais honnêtement, je ne suis pas d'accord à ce qu'il a avancé, que nos journalistes n'ont pas assez de carnets d'adresses parce qu'ils sont occupés qu'à faire des reportages. Je pense que dans...
Certains.
À mon avis, au niveau de nos rédactions, les jeunes qui font des ateliers, des couvertures des ateliers, généralement, ce sont des débutants. D'autres ne sont pas aussi une certaine expérience. Mais dans la rédaction, il y a des journalistes qui ont assez de carnets d'adresses, qui font des analyses, qui font des décryptages, qui ne sortent pas régulièrement. Et puis, je pense que et le fait que les autres médias nous dévancent en publiant des informations, ce n'est pas une question de... Peut-être nos journalistes n'ont pas assez de carnets d'adresses, mais je peux dire, nous avons des soucis pour la sécurité de notre pays. Et nous nous conformons au communiqué de l'état-major qui a été clair en disant que toutes les informations sensibles, toutes les informations de l'armée doivent venir après le communiqué de l'état-major. Je pense qu'on avait les mêmes informations que les médias internationaux, mais on ne pouvait pas publier parce que nous attendons que le communiqué des états-majors de l'armée. Moi, je pense que c'est par souci de sécurité de notre pays, de la cohésion sociale et de l'unité du pays nous, on fait l'autocensure souvent, quoi. Ça, c'est mon point de vue.
D'accord. Awa, quel commentaire faites-vous de...
Bon, écoutez, nous, on est, nous, par exemple, à Nouvelle Horizon, on est victime de la situation.
Comment
parce que j'avoue que ce que tonton a dit est vrai. Et il faut avoir des contacts. Bon, pour les contacts, Dieu merci, nous, on en a. Maintenant, pour faire parler les contacts, ça, c'est autre chose.
C'est, les portes c'est... sont fermées ou bien c'est
non, ils vous échangent, mais il y a des informations, ils ne veulent pas forcément te la donner ou ils ont peur ou tu ne sais pas. Mais de l'autre côté, tu te rends compte que pour ceux qui est des médias internationaux qui ne sont même pas au Mali, leurs représentants ne sont pas au Mali, ils ont un plus de facilité à leur donner certaines informations qu'à nous, par exemple. J'avoue qu'il y a eu des moments où, par exemple, nous, on nous a donné des informations exclusives. Mais il y a des moments où très souvent on est confronté à ça, où des sources, notamment sécuritaires,
d'accord.
peut-être, je ne sais pas, eux-mêmes ils craignent peut-être, je ne sais pas, je suppose que c'est ça. Ils ne veulent pas trop en dire et puis ils préfèrent...
D'accord. Gamer Diko, l'information quand même est considérée comme un levier de gouvernance. Alors, quelle stratégie le gouvernement, à travers votre département, met en place pour développer ou renforcer les capacités des structures de communication et des médias ?
Développer les structures de... Bon, je pense que l'une des dispositions prises par les autorités de notre pays, c'est d'abord favoriser... la création des écoles de formation en journalisme ici. Il y a, nous, on a été formés à l'extérieur parce qu'il n'y avait pas d'école de journalisme. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, personnellement, je suis responsable du programme médias et communication publique, mais en toute honnêteté, je ne connais pas encore le nombre d'écoles qui forment des journalistes au Mali. Donc, lorsqu'on forme, déjà, c'est lorsqu'il y a les facilités, La facilité politique de former les journalistes, déjà, c'est une disposition très importante. Deuxième point, c'est les textes. Tous les textes, pratiquement, ont été adoptés et relus et ils sont dans les circuits. Tous ces textes permettront à la presse malienne vraiment de faire correctement et fondamentalement son travail.
D'accord.
Mais il y a un mais. Mais il faut que nous, comme je le disais, mon petit frère Fofana disait que on a quand vous savez, dans la presse, c'est un jeu souvent très subtil. Avoir un carnet d'adresse et savoir exploiter ce carnet d'adresse aussi, c'est une autre paire de manches.
Merci. Modibo Fofana, est-ce qu'aujourd'hui, quels sont les défis pour la presse malienne? Est-ce que le moyen financier ou votre sécurité à cette période de crise?
D'abord, le premier défi, c'est les moyens financiers. Vous savez très bien que nous sommes dans une situation exceptionnelle où l'État est le premier partenaire des médias. Depuis bientôt 5 ans, l'État n'assiste pas assez les médias sur le plan financier. Et ils sont nombreux, les médias qui sont agonisants. Imaginez un média dans certaines situations agonisantes. Son souci premier, c'est comment survivre, vous voyez. Ensuite, peut-être, il y a la sécurité aussi qui est là. J'aime beaucoup l'adage ivoirien. Pour un bon journaliste, c'est celui qui est vivant. Ça, c'est une réalité.
C'est-à-dire qu'il y a des confrères qui sont menacés.
Oui, bon, il n'y a pas une menace directe qui est là, mais en réalité, il y a des menaces indirectes à tel point qu'il y a des dossiers, il y a des sujets qui sont très sensibles au Mali. On ne peut pas les toucher.
Donc vous faites l'autocensure.
On est obligé de faire l'autocensure, absolument. Vous voyez, parce qu'il y a des sujets qui sont sur nos têtes. On ne peut pas l'évoquer, non. Compte tenu de la situation du pays. Et enfin, peut-être les défis de la formation. À mon avis, on commence à relever les défis de la formation parce que depuis bientôt 6 ans, nous avons une école supérieure de journalisme et de la communication et qui donne de bons produits qui sont sur les marchés maliens. Moi-même, je suis un vacataire là-bas. J'enseigne les médias numériques. Et au-delà de ça, il y a des écoles privées qui forment aussi les journalistes.
Institut, voilà. Absolument. Awa, est-ce que vous avez les mêmes défis partagés par Modibo?
Oui, je pense que tous les médias maliens sont dans ce cas de figure. Après, il y a quelque chose qui est une réalité, c'est l'ascension de je ne vais pas dire des médias en ligne, des vidéomans. qui ont été pendant très longtemps. On a vu pendant...
Évidemment, c'est-à-dire...
On va dire... Oui, Vidéomane, l'information rapide, on te dit qu'il y a un enfant qui est tombé dans un
Facebook.
Puits. Voilà, et puis ce n'est pas forcément, il n'y a pas forcément de formation derrière. N'importe qui peut se lever, prendre un micro. C'est le traitement de la diffusion de l'information sans trop de réflexion derrière, on va dire.
Sans traitement, les
sans
bases
traitement, rien, sont rien. L'état brut comme ça, et puis. Voilà, à l'état brut, à consommer aussi à l'état brut. Donc, on a été longtemps confrontés à ça. Et je dois avouer que pendant un très long moment, les autorités, elles aussi, nous en tout cas la presse écrite, nous avons été reliés au second plan par rapport à ces médias-là. Et aujourd'hui, le temps nous donne raison à nous. Parce que quand vous avez une guerre de communication comme on connaît maintenant, ce ne sont pas eux, je ne vais pas citer de nom, qui vont défendre l'État. En fait, aucune personnalité internationale ne va les prendre au sérieux.
D'accord.
Aucun intellectuel, même au Mali, ne peut les prendre au sérieux parce que ce n'est pas des médias qui sont sérieux, on va dire, entre guillemets.
Ouais,
sans vexer qui que ce soit.
Des amateurs.
Vraiment. Voilà, ce n'est pas comme la presse écrite qui, elle, tu sais qu'il y a un poids derrière, il y a un travail derrière, il y a quelque chose de vraiment conséquent qui peut... Et quand le ministre de la Communication est venu l'autre jour, on l'a compris, on comprend depuis les événements du 25 qu'ils reviennent, les gens disent la presse écrite va disparaître, c'est faux.
D'accord. Qu'est-ce que vous attendez de l'État rapidement, au niveau de la presse écrite, au niveau de la presse, pour imposer vos propres narratifs au Mali?
Imposer nos propres narratifs. Oui. Écoutez, nous, par exemple, nous, on est la presse écrite. Nous, on a un sacerdoce. C'est fournir l'information à la population. On ne veut pas dénaturer l'information. On veut l'information telle qu'elle. Maintenant, on peut jouer un autre rôle de communication, si vous voulez. Chose qu'on fait quand vous avez des autorités qui veulent diffuser certaines informations, ça on le fait très bien. On a aussi un rôle de cohésion, de sensibilisation, ça on le fait aussi, mais pour ça on a besoin des moyens. Peut-être qu'on aurait besoin de certaines subventions, parce que les temps sont durs, il faut se le dire, ce n'est pas que au Mali.
L'aide à la presse
par exemple, qui aidait nous dans notre cas, je ne vais pas le cacher, hein, ça ne nous aidait pas vraiment.
Merci, l'aide à la presse.
Voilà, et bien
sûr. Monsieur Dico, rapidement, alors, quels moyens vous, en tant que département, vous pouvez offrir aux médias davantage pour les accompagner? On a parlé de difficultés financières, la sécurité, pour mieux communiquer, imposer des narratifs. 30 secondes.
Merci. Ce que nous pouvons faire, et nous faisons toujours, c'est d'être vraiment le ministère en question, le ministère de la communication, et suivre l'interface entre les médias et les autres institutions de la République. Et ça, nous ne le refusons pas. Je pense que personne ne s'est présenté au ministère, par exemple, de dire « bon, j'ai tenté de rencontrer tel ministre ou telle personne et je n'ai pas pu l'avoir ».
Vous êtes disponible?
On est disponible, comme le Sigma est disponible.
Ok, Mourbo Fofana, rapidement, voilà, au-delà de l'aspect financier ou autre, est-ce que l'accès de l'information aussi constitue un problème?
Ouais. L'accès de l'information constitue un vrai problème parce que, en réalité, dans une situation pareille, il faut prioriser des médias. Il n'y a pas de petits médias. L'information est la plus importante. Si un média local publie une information très importante, moi, je suis persuadé que ces informations seront reprises par les grands médias. À mon avis, la priorité, il faut donner à nos médias. Et puis, essayer de voir aussi la lourdeur administrative pour donner l'information aux journalistes. Je pense que nous sommes très confrontés à cette situation. Surtout, on fait face à une situation où on appelle l'armée en miettes. L'information, ce n'est pas vraiment facile. Mais l'État, aujourd'hui, notre ministre, je voudrais profiter de votre micro.
Rapidement.
Le ministre de la Communication doit faire un lobbying pour que les autorités puissent accompagner les médias, les médias maliens.
D'accord. Les médias maliens demandent l'accompagnement des autorités. Le temps qui nous est imparti est arrivé à terme. Il faut soutenir le journalisme professionnel face aux défis. C'est ce qui met fin à cette émission Grand Dialogue. Grand merci à nos invités, à la régie son et vidéo, Ibrahim Sanogo et Mamadou Ouattara, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Merci pour votre fidélité au programme. À la semaine prochaine pour un autre numéro.